Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Et je me suis aperçue que quand tu avais ton genre féminin, et que dans le genre féminin, quand tu naissais avec un vagin, on te donnait des règles comme quoi ton seul but sur Terre, c'était séduire l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec moi et donc avec mon frère. Mon frère, il n'a pas eu ces règles-là. Donc, moi, c'était séduire l'homme. Et quand tu veux séduire l'homme, c'est un peu, t'es réduit à un peu à un objet, enfin, totalement à un objet, en fait. Et du coup, ça fait que ton seul, tout potentiel femelle, entre guillemets, ça devient une rivale potentielle. Parce que toi, ton but, c'est pas de t'épanouir, toi, en tant que tel, c'est de trouver un partenaire pour te reproduire de façon très biologique.
Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec la youtubeuse Léa Chou. J'ai voulu l'inviter sur le podcast car elle fait partie des premières personnes que j'ai suivies sur YouTube lorsque j'étais encore une jeune adolescente. J'ai pu suivre son évolution au fil des années et j'avais très envie de discuter avec elle de nombreux sujets tels que le rapport au physique et à la séduction, la concurrence entre femmes, ses études de psychologie ou encore le fait d'être socialement grosse, comme elle le dit elle-même dans plusieurs de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Vous l'entendrez peut-être, mais le montage ne m'a pas permis de supprimer quelques défauts sonores, tels que des grésillements ou des effets d'écho sur certains passages de l'interview. J'espère vraiment que ça ne gênera pas votre écoute et j'en suis désolée par avance. Ceci étant maintenant clair, je vous laisse avec notre discussion. Vous écoutez Bouteille à la mer. Écoutez, bouteille à la mer. Bonjour Léa, bienvenue sur Bouteille à la mer. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Moi, je te connais très bien puisque ça fait quelques années que je te suis maintenant, que je t'ai découverte sur YouTube et sur Instagram. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter quand même pour les personnes qui te connaîtraient peut-être pas, s'il te plaît?
Alors du coup, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans. Je suis vidéaste, donc je fais des vidéos sur internet et je viens en parallèle de terminer ma licence en psychologie.
Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de quel enfant tu étais, de quels souvenirs tu as de cette période? Qu'est-ce que tu pourrais me dire de toi, enfant?
Alors, j'ai énormément de souvenirs de mon enfance. Et sinon, oui, j'étais une enfant très sociable et très curieuse. Mmh. Je posais énormément de questions et à l'époque, il n'y avait pas internet. Et ma mère, elle me disait toujours « Oh, si tu sais pas, tu diras que t'en sais rien. » Et du coup, j'ai grandi parce qu'en fait, elle me disait... Enfin, aujourd'hui, elle me dit « J'avais peur de te dire des bêtises. » D'accord. Donc, elle préférait ne rien dire. Ou elle me disait « Sinon, tu demanderas à ton père. » Mais je posais des questions pourquoi les cheveux, ils poussent plus vite que les poils des bras. Enfin, c'était des questions pour une enfant assez étrange.
Des choses... non, mais que je comprends. C'est des choses auxquelles on n'a pas forcément les réponses, en plus.
Et donc, j'étais très, très curieuse de tout. Et j'adorais... les fourmis et les insectes. Donc, je passais ma vie à jouer dehors ou à poser plein de questions. Mais voilà, j'étais une enfant très débrouillarde et qui causait aucun problème. Voilà.
Une enfant curieuse.
Ouais.
Est-ce que t'as eu le sentiment, en étant petite et même après en grandissant, d'avoir eu une éducation qui était particulièrement genrée pour les filles en l'occurrence?
Alors, totalement. J'ai une éducation totalement genrée avec la fille. Ça fait la vaisselle, le ménage, il faut que tu trouves un mari, etc., etc. Et j'ai un grand frère qui a eu pas du tout la même éducation que moi. Et je me souviens, à 14 ans, j'avais dit à ma mère, parce qu'elle voulait pas que je sorte, elle avait peur pour moi, pour ma sécurité, etc. Et je lui avais dit, si les mamans, elles laissaient moins sortir les garçons comme toi, tu laisses sortir mon frère, et bien peut-être qu'il y aurait moins de problèmes dehors aussi. J'ai dit, et c'est vrai qu'elle avait un petit peu bugué, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions sur pourquoi j'avais pas la même éducation, pourquoi c'était différent. Pourquoi moi et mon frère, on était. Enfin, mon
C'est des
frère et
vraies
moi.
questions.
Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que je pense que ma mère non plus ne savait pas pourquoi. En fait, j'ai une maman qui m'a remplie d'amour, mais qui a suivi toutes les règles sociales en pensant que c'était les
D'accord.
choses à faire. Et elle a jamais. En fait, elle a jamais trop pu déconstruire tout ça. Et donc, pour elle, c'était au mieux. Donc, elle a fait au mieux et elle m'a construit sans le savoir et sans savoir elle-même les choses. Et voilà.
Oui, elle a fait avec les armes qu'elle avait aussi.
Ouais.
Hein. Malheureusement, on ne vit pas dans une société qui est très ouverte à tout ça. Donc forcément, les parents aussi ont leur propre
Ouais,
bagage. On ne peut
c'est
pas
ça.
leur en vouloir.
Mais elle m'a toujours dit, faudra que tu travailles. Elle m'a dit, ne sois jamais dépendante financière de quelqu'un et faudra que tu travailles. Mais à la fois, elle me disait toujours, faut tu... enfin, elle avait ce double discours entre ce qu'elle pensait et ce que la société, enfin, comme s'il y avait, voilà, le.
Oui. Entre ce qu'elle pensait être juste et en même temps bah, les standards
Ouais.
qu'on connaît tous, de se faire entretenir par le mari, mais en même temps c'est mieux d'être
Ouais.
indépendante.
C'est entre ce qu'elle
Je vois très
vivait
bien.
et ce qu'on lui avait dit. Elle avait ce double discours. Des fois, j'étais un peu perdue, mais.
Ouais, ça doit être perturbant un petit peu, je pense, pour la construction. Après, on va poursuivre sur l'adolescence, pardon. Quel type d'adolescente tu étais? Je sais que c'est un sujet dont tu as pas mal parlé sur YouTube. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette période de ta vie?
Alors, j'étais une adolescente. Du coup, qui a suivi indirectement ce que sa maman lui a dit. Moi, mon but dans la vie, c'était de fonder une famille, de me marier, d'avoir un chien, enfin d'avoir ce modèle-là, d'avoir sa maison, etc. Et du coup, j'ai plus passé mon adolescence à essayer de trouver des mecs et à trouver quelqu'un qui m'aimait, en fait, parce que c'est quelque chose de très dur de se. Et plus que d'écouter en cours. C'est pour moi, j'ai adoré mes périodes d'école, plus pour le côté, toute la dimension sociale, les interactions humaines, etc. Et du coup, j'étais vraiment une fille qui était très dans les apparences, qui essayait toujours de plaire à l'autre, qui vivait à travers le regard de l'autre, qui avait besoin de validation masculine. Voilà, c'était. Voilà, j'ai suivi le schéma.
Le schéma classique.
Ouais, voilà, tristement classique, mais qui beaucoup de gens suivent ce schéma-là, quoi.
Oui,
Donc
complètement,
on
surtout à
compose comme
l'adolescence.
on peut, ouais. On compose comme on peut, mais j'ai composé quand même à ma manière parce que j'ai compris très tôt que je correspondais pas aux standards de beauté, c'est-à-dire que quand les garçons faisaient malheureusement les top 10 des meufs les plus belles de la classe, j'étais pas dans le top classement,
J'y étais pas non plus, je te
mais
rassure.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec les autres filles parce que malgré ça, j'arrivais à séduire et à être appréciée énormément par mon caractère. Donc j'ai très vite compris que il était plus important, enfin qu'il y avait autre chose que le physique. Mais j'étais pas encore assez, enfin j'avais pas encore assez de recul pour mettre des mots dessus. Mais j'ai compris très vite que si je voulais séduire l'autre ou plaire, puisque c'était ce que je cherchais à faire, c'était pas avec mon physique, mais avec ma personnalité. Et ça marchait plutôt bien, ce qui énervait beaucoup les autres filles. Donc, mais c'était très inconscient de ma part
Bien sûr, bah
et
oui,
voilà.
en plus l'adolescence, c'est tellement une période où on se construit
Ouais.
et le regard de l'autre est extrêmement important. Et du coup, tu as dû ressentir une espèce de concurrence, non, avec les autres filles à ce moment-là.
Alors totalement, mais il y a toujours, j'ai toujours été en concurrence avec les autres filles. C'est que récemment que j'ai compris le pourquoi du comment, enfin très récemment, depuis que j'ai 23-24 ans. Mais je me suis jamais jamais entendue avec le genre féminin. J'avais que des copains garçons et voilà. Genre, on m'avait dit une fois, ça m'a marqué, on m'avait dit, t'es trop fille pour être un garçon et trop garçon pour être une fille. C'était très bizarre,
Ouais, c'est
j'étais en mode.
spécial.
Mais c'est vrai que je m'entendais beaucoup mieux mentalement avec les garçons et du coup, je traînais qu'avec des garçons, je supportais pas du tout cette concurrence qu'il y avait en mode, c'est moi qui ai les plus gros seins, les plus belles jambes, les derniers vêtements à la mode et tout, alors que moi, c'était. Enfin, mes parents, enfin, j'ai jamais voulu de marque, j'ai jamais rien voulu, quoi. Donc, du coup, j'étais un peu loin de ce qui est valorisé socialement, en tout cas, dans l'apparence.
Oui, je comprends tout à fait. Et comment t'as fait du coup pour déconstruire ce truc-là de te dire, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans même au sein des filles enfin des filles des personnes qui sont vues comme des filles, ce truc-là de oui, mais toutes les filles sont comme ça, il y a toujours une concurrence entre les filles se dépècent entre elles, tous ces trucs-là qu'on entend beaucoup. Comment toi t'as fait pour le déconstruire?
Ah, ça a pris beaucoup de temps. Je pense que mes études en psychosociaux, ça a été un énorme déclencheur. Notamment, toutes ces règles de genre, etc. J'ai mis énormément, énormément. Enfin, je le comprenais sans réellement le comprendre. C'était des oui, mais, ok, mais. Et bon, du coup, j'ai eu des cours sur le sujet, notamment dans la culture, pas forcément que la nôtre, et de tout ce qui se passe dans le monde. Et je me suis aperçue que en fait, quand enfin, tu avais ton genre féminin, et que dans le genre féminin, quand tu naissais avec un vagin, on te donnait des règles comme quoi ton seul but sur Terre, c'était séduire l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, et donc avec mon frère. Mon frère, il n'a pas eu ces règles-là. Donc, moi, c'était séduire l'homme. Et quand tu veux séduire l'homme, c'est un peu, t'es réduit à un peu à un objet, enfin, totalement à un objet, en fait. Et du coup, ça fait que ton seul. Toute potentielle femelle, entre guillemets, ça devient une rivale potentielle parce que toi, ton but, c'est pas de t'épanouir, toi, en tant que telle, c'est de trouver un partenaire pour te reproduire
Ouais, je
de
vois très
façon très
bien.
biologique.
Non, mais c'est intéressant, c'est super intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça.
Voilà, et ça crée une concurrence entre nous qui n'a pas lieu d'être parce que c'est totalement. Enfin voilà, et c'est pour ça qu'entre filles, on est plus critique sur. Enfin, moi, j'ai jamais été aussi jugée, enfin, autant jugée de fille facile, de pute, de t'as vu tes vêtements, t'as vu ton corps, etc., que par d'autres femmes. Mais je peux pas leur en vouloir non plus, puisque c'est une éducation, c'est depuis notre. Enfin, depuis entre 0 et 3 ans, ça commence, quoi. Genre. Et du coup, ça fait le schéma qui fait qu'entre filles, on a tendance à être plus, entre guillemets, pestouille, mais c'est pas parce qu'on a un vagin, c'est parce qu'on est éduqué à cette compétition depuis tout le temps.
Ouais, complètement.
Et du coup, voilà.
Et comment t'as vécu ton rapport au corps, du coup, à l'adolescence?
Alors, moi, j'avais le petit surnom au collège. C'était Peggy la cochonne. Mais
Super.
pas sexuellement parlant. C'est parce que, moi, voilà, j'avais mon petit nez là. Et j'étais rouge, comme maintenant, en fait. Mais c'était. Moi, je le prenais pas mal. J'ai toujours eu un second degré. C'est l'éducation aussi dans ma famille. On est très second degré et piquant. Et du coup, ça fait que je prenais ça beaucoup à la rigolade.
D'accord, ça t'a pas
Mais
affecté
non.
plus que ça, d'accord.
Non, j'avais à la fois ce truc de même si les autres t'emmerdent, ils sont là. Donc au final, t'es pas toute seule. Et
Ouais.
finalement, se faire emmerder, c'est horrible, c'est intégrer
Oui,
un
dans
peu
le
le
sens où
harcèlement.
ouais, du coup t'as une espèce
Ouais.
de. Ça veut dire que ils pensent à toi,
Ouais.
que tu les intéresses, c'est ce que je voulais dire.
Ouais.
Du coup,
Mais
ouais,
c'est pas une
t'existes.
bonne. Ouais. C'est pas une bonne chose du tout, mais c'est vrai que je préférais qu'on m'embête et qu'on me taquine des fois très violemment, parce que bon, ça c'est le collège, allait, le lycée, ça a été pire, mais là c'est encore période du collège, que plutôt qu'on m'ignore. C'était.
D'accord.
Voilà. Mais du coup, j'ai commencé. En fait, au collège, j'étais. Moi j'étais normale, enfin. Normale, enfin c'est compliqué à donner un terme. un terme
T'étais
en tout
dans la
cas.
norme.
Ouais, mais. C'est vrai que très vite, j'ai complexé parce qu'on me faisait des blagues. On fait toujours des blagues sur le corps, notamment au collège. Mais j'ai jamais trop été trop complexée, tout ça. J'avais pas encore cette conscience du corps et tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que il m'est arrivé quelque chose d'assez grave en troisième, enfin quatrième, troisième. Et suite à ça, moi, je suis tombée dans la boulimie-anorexie. Et j'ai commencé à trouver énormément de plaisir à la maîtrise de mon corps. C'est-à-dire de pouvoir maigrir, de pouvoir contrôler mon alimentation. Et je suis tombée dans les TCA à cet âge. Et j'ai commencé. Mais c'est pas forcément dans le but de perdre du poids, c'était plus dans le but de contrôler un mal-être que j'avais en moi, quoi.
Ce qui était en lien avec ce traumatisme-là, du coup.
Ouais.
Donc un rapport assez chaotique finalement.
Oui, c'est ça, mais c'est surtout en fait, je me souviens assez enfin, j'ai vraiment ces souvenirs là de moi en train d'essayer de vraiment vouloir plaire à l'autre et donc au mal. Et c'est vrai que je comprenais pas pourquoi il y avait pourquoi moi j'arrivais pas à plaire autant que d'autres filles, etc. Et j'étais un petit peu la fille, enfin je pense que c'est important que je raconte cette histoire, mais bon, j'ai été énormément harcelée par les autres filles pendant ma période collège-lycée. Et du coup, ça fait que beaucoup de garçons... en fait, voilà, j'étais socialement la moche, entre guillemets, mais indirectement, ils venaient tous me parler en cachette.
D'accord.
Donc j'étais la fille qu'on voyait dans le dos parce que socialement, on n'assume pas d'être... Okay. Et ça m'a duré super longtemps, jusqu'à mes 23 ans, de ressentir cette... t'es pas... en fait, t'es génial, mais socialement, je peux pas te présenter parce que t'es trop moche.
C'est vois, ouais.
Ce truc-là. Et c'est assez compliqué parce que quand j'en parle, les gens me disent « Mais non, mais t'es pas moche, mais c'est pas moi ce que je ressens, c'est que c'est ce que vraiment les gens m'ont fait ressentir. » Et ça fait que j'avais vraiment ce mal-être en moi de pas comprendre pourquoi tout simplement. Et comme ma mère m'a pas expliqué ces normes sociales parce qu'elle les a inconsciemment intériorisées surtout, elle m'a pas expliqué ce que c'était, donc j'ai un peu été lâchée comme ça, en mode le genre féminin, masculin, etc. Je comprenais pas grand chose de ça. Moi j'étais juste, moi je suis un être humain et je comprends pas pourquoi. Voilà, j'étais beaucoup de pourquoi, quoi.
Non, mais c'est super intéressant. Je pense que c'est quelque chose où beaucoup de personnes vont se reconnaître. Moi, la première, parce que c'est vrai que toutes ces normes de physique et de séduction et de rapport à l'autre, etc., notamment à l'adolescence, mais ça dure aussi, même après, à l'âge adulte, ou en tout cas à la début de la vingtaine, comme moi, je le connais. Et c'est vrai que des fois, c'est tellement intériorisé qu'on n'arrive pas à le palper, en fait. On n'arrive pas à comprendre vraiment d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire.
Mais surtout que, par exemple, vers 14 ans, on a... en fait, on a notre cerveau qui se construit et on a ce qu'on appelle la pensée hypothétique déductive. C'est une forme de pensée qui permet de prendre du recul, de formuler des hypothèses, etc.
D'accord.
Et elle se construit pendant le collège. C'est-à-dire que même on n'a pas du tout... les armes cognitives pour prendre du recul et comprendre. Déjà, on commence juste à peine à comprendre qu'il y a le futur, qu'il y a des projets sur le long terme, etc. Et c'est vrai qu'on est vraiment lâché comme ça, un peu en mode débrouillez-vous et tu verras. Et moi, j'ai fait plein de choses qu'aujourd'hui, avec le recul, je n'aurais jamais fait parce que je suis capable de voir les dangers et de comprendre. Mais t'es là, t'es perdu et tu comprends pas. Et t'as pas les armes pour comprendre.
Et
t'es là, voilà.
C'est la difficulté de l'adolescence. C'est... cette espèce d'entre-deux qui est compliquée. Mais on va en reparler plus tard de tout ça, parce que c'est un gros sujet et j'ai bien envie qu'on l'approfondisse ensemble. J'aimerais te demander avant ça, quel a été ton parcours après le lycée? Qu'est-ce que tu as fait en termes d'études, tout ça, avant justement ta licence de psychologie?
Alors, du coup, je crois que je me considère comme une troubaritz, c'est des trucs troubadour au féminin, parce que vraiment, j'ai un parcours scolaire... autant dans ma vie que dans tout. Je sais qu'après le lycée, je me suis dit, je veux partir faire styliste, faire des vêtements. J'étais passionnée par la création de vêtements. Et du coup, mes parents, ils étaient en mode, t'es sûre, tu veux pas aller en général et tout. J'étais en mode, oui. Ils m'ont dit, ok, bah, suis tes rêves. Parce que j'avais pas confiance en mes capacités scolaires. En plus, j'étais dyslexique. J'étais dans une école privée. Le niveau, il était... Enfin, je trouvais ça super dur, l'école, et j'étais pas passionnée. Et puis finalement, j'ai fait un an de BEP mode. Et ça a été une année où j'ai compris que j'adorais apprendre les choses. Et que j'avais des facilités quand même, mine de rien, quand je voulais à l'école. Donc j'ai fait un an de ça et je suis un peu aussi hyperactive. Donc j'étais en mode passer 8 heures devant une machine à coudre des vêtements. C'est pas pour moi.
Ouais.
Donc j'ai emmerdé mes parents pour qu'ils m'enlèvent de cette école et qu'ils me remettent en seconde générale.
D'accord. T'as refait le chemin inverse.
Ouais, inverse. Je suis partie en seconde générale. J'ai dû faire un choix entre un bac S et L. Je savais... Enfin, vraiment, ma vie, ça a toujours été... Je ne sais pas, en fait. Tous les ans, on me disait, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas, moi. Je trouve qu'on n'est pas... Enfin, voilà. Même aujourd'hui, c'est toujours la même question. Mais du coup, je suis partie faire un bac L. Et ensuite, à la fin du bac L, on m'a dit, tu veux faire quoi plus tard? Bah, je savais toujours pas. Donc, j'ai dit... je vais partir faire une licence communication et réseaux sociaux puisque j'avais commencé ma chaîne YouTube. Donc je suis arrivée, j'ai redoublé ma première année parce que je voulais m'améliorer mon dossier parce que j'avais des grosses lacunes. J'ai fait mes 4 ans J'ai fait 3 ans du coup, plus 1 an de licence. Okay. Après ça, j'ai fait 1 an de YouTube. Et après, je me suis dit, meuf, il y a une chose qui te suit depuis toujours, c'est t'aimes l'humain et le comportement humain. Mm. Et t'as toujours fait du social. Depuis que t'es au lycée, t'allais à l'école pour le social, etc., etc. Et ma mère, elle me disait toujours, oui, c'est pas un métier d'avenir. Ne fais pas psychologue, ne fais pas ces études. Mm. Sauf que, bon, voilà, j'avais 24 ans et je me suis dit, bah, go. Tu peux vivre à côté, tu peux faire un truc et fais tes licences en psychologie. Et j'ai atterri voilà, en psycho.
Et aujourd'hui, t'as fini ta licence en psychologie. T'en as fait une vidéo que j'ai beaucoup aimée, comme beaucoup de tes vidéos pour être honnête. Mais oui, t'en as fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Un an dans ma vie d'étudiante » dans laquelle tu expliques que tu n'as pas eu de master, en tout cas pas ceux que tu voulais. Et tu as aussi bouleversé un petit peu tes plans d'avenir puisque t'as décidé du coup de t'orienter plus dans le social que dans la psychologie, si j'ai bien suivi. Pour commencer, j'aimerais bien te demander qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à reprendre tes études à l'âge de 24 ans, ce qui n'est pas une décision anodine quand même. Pourquoi un psycho, si tu peux le développer aussi, ça serait intéressant, même si tu nous l'as dit un petit peu. Mais je pense que c'est quand même une décision qui est assez courageuse de reprendre ses études à l'âge où, en général, tout le monde les a finis.
Ouais. En fait, j'ai... Je sais pas, c'est une passion très étrange pour l'apprentissage, les formations. J'adore apprendre et je m'en suis rendu compte notamment quand j'ai fait mon BEP où j'apprenais très peu et j'aime tellement apprendre et comprendre les choses. Et je sais que par exemple, on n'a pas parlé de la période de lycée, mais ça a été une période qui a été très 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 difficile pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait l'être humain, vu que je comprenais pas les normes sociales et que j'ai toujours été très curieuse de tout. Ben, j'ai commencé à élaborer des théories sociales. En fait, il y en a plein aujourd'hui, elles sont toutes mignonnes quoi, quand je vois la recherche qu'il y a autour de ces sujets bien plus approfondis. Mais ouais. Je voulais vraiment comprendre et me faire une place socialement. Et du coup, j'ai commencé à comprendre comment me comporter, comment être, comment les gens réagissaient, pourquoi, etc., etc. Et j'essayais vraiment de mettre beaucoup d'énergie à me dire, cette personne, je sais que je ne peux pas m'entendre avec elle, celle-là, oui, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a en commun. Je commençais, ben, voilà, c'était très mental. Grâce à ça, quand je suis rentrée du coup dans ma, c'est quoi, c'est dans ma licence, dans mon DUT après, j'ai plus de problèmes sociaux. Mais du moment où j'ai compris, quand j'ai eu 18 ans et que je suis partie à Castres dans le sud, et ben là j'ai plus du tout de problèmes sociaux. Enfin si, d'accord. J'ai au début pendant le premier mois j'étais un peu en mode, il faut faire ça. Je m'étais dit en mode il faut. Faut que tu sois simple, discrète et tout ça. Et du coup, j'avais commencé à avoir des amis qui ne me correspondaient pas du tout. Et je me suis dit, non, il faut que tu sois toi-même et puis tu verras bien. Et bon, du coup, j'ai plus eu de problème. Mais j'ai mis quand même beaucoup de temps à essayer de comprendre les réactions humaines. Et c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours passionnée. J'ai toujours été très curieuse. Et quand j'ai commencé YouTube, ça s'est développé encore plus parce que j'ai commencé à faire de la sexualité, à aborder pas mal de sujets. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais des réflexions et que des fois, les gens me disaient « Mais non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a ça, etc. » Et petit à petit, je me braque pas du tout, en fait, quand on n'est pas d'accord avec moi. Au contraire, je trouve ça hyper intéressant. Donc, j'approfondissais un peu tous ces sujets. Et je me suis dit « Vraiment, c'est un sujet qui te passionne, le comportement humain. Il faut que tu t'ailles en psychologie, t'adores apprendre. » Je suis rentrée en première année avec ce truc en me disant tu veux être sexologue, donc ça a beaucoup changé du coup, mais c'est en mode tu veux être sexologue ou être psychologue, mais pour ça il te faut un diplôme, donc je m'étais dit tu vas le faire en 4 ans sûrement parce que t'es trop nulle, t'es une merde, voilà, je me suis dit ça.
T'es partie avec une vision d'échec déjà.
Ouais, parce que je me souviens de mon conseil de classe de terminale où j'étais déléguée et que ma prof principale m'a dit que je n'avais aucun avenir dans les études, que j'étais trop superficielle. Mais j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire par « tu es trop dans la superficialité dans ton travail ». Mais j'avais 16 ans. je ne pouvais pas le comprendre. Aujourd'hui, maintenant, oui, mais j'ai mis des années à le comprendre. Et du coup, elle me disait « moi, je te mets défavorable à tous tes vœux, sauf si tu veux aller en BTS ».
Ah ouais. Donc, c'est dur quand même.
Ouais, ah ouais, mais j'aimerais tellement revenir en arrière aujourd'hui à ce conseil de classe et lui demander si elle n'a pas honte de faire ça,
c'est
genre
compliqué.
Publiquement devant tous les profs et tout, genre...
Ouais, c'est humiliant, je trouve.
Ah ouais, ah ouais, c'est... Puis bon, finalement, j'ai eu mon bac et donc je suis partie à la fac et ça a été l'année où j'ai eu les meilleures notes de toute ma vie entière.
Parce que là, tu étais vraiment passionnée par ce que tu étudiais.
Ah ouais, c'est vraiment... C'est la psychologie et tout ce qui est comportement humain et social. C'est quelque chose que... J'ai pas l'impression de travailler ou de faire des études. C'est juste, je fais quelque chose que j'aime et je suis notée, entre guillemets, pour ça. Et j'apprends toujours des choses qui me passionnent. Tous les sujets en L2, enfin en première année de psychologie, on m'a dit, tu vas voir, c'est la boucherie. Il y a des milliards de matières, il y en a plein qui vont pas t'intéresser. Moi, j'étais en mode, ah non, c'est trop bien. Mais je suis partie quand même avec, dans mon sac à dos, beaucoup de désavantages parce que, vu que j'ai jamais trop écouté l'école, j'avais, j'avais des problèmes... l'histoire de la France, tout ça, j'ai pas écouté à l'école. Mmh. Et du coup, j'ai dû réapprendre un petit peu ces choses que j'avais eu la flemme d'apprendre en étant jeune. Et du coup, j'ai plein de mots que je connaissais pas. J'avais un vocabulaire très pauvre, etc. Donc la première année, ça a été beaucoup de travail, notamment chercher plein de mots dans le dictionnaire, surtout des mots de science. J'étais pas du tout préparée à ça.
Bien sûr.
Mais j'ai adoré... ma première année, ma deuxième année et puis ma troisième année. Donc,
Et puis tu les as eues, quoi. T'as pas redoublé.
Ah non, mais je les ai eues avec mention et tout. J'étais en mode... Oh.
Félicitations, c'est trop bien. C'est trop bien.
Merci. Ça a été au-delà de mes espérances, en vrai. Mmh.
C'est génial. Et justement, d'un aspect social, est-ce que t'as eu des difficultés ou une appréhension particulière à reprendre tes études à 24 ans? Parce que je pense que c'est une question qu'on peut quand même se poser.
Alors, le truc, c'est que je sais, c'est un petit peu ma force personnelle. C'est que je m'en fous vraiment de tout. Des gens, du regard de l'autre. Même si avant, c'était moins que maintenant. Mais j'ai quand même toujours eu du soutien de mes parents. En mode, ils m'ont suivi dans tous mes projets les plus farfelus. Et j'en ai eu. Et ils étaient toujours en mode derrière moi. Et quand j'ai dit à mes parents que je voulais reprendre mes études... et plus faire de YouTube mon grand métier parce que j'adorais toujours mais j'étais dans une transition entre celle que j'étais et celle que je devenais quoi. Et du coup mes parents ils m'ont soutenue et moi j'y suis allée en mode tu vas enfin faire ce que t'aimes. C'est, je me suis pas dit t'as 24 ans et puis je les ai fait à distance mes études.
Oui, donc, c'est vrai que ça change un peu quand même.
C'était en mode tu révises de chez toi, tu fais tes trucs. Maintenant, j'avais 24 ans, donc j'avais une routine, j'avais une vie et j'avais déjà fait des études avant. Et là, je me suis dit, non. Pour moi, en fait, il n'y a pas de limite. En fait, on m'a vraiment éduquée en mode, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, même si tu es une femme. Du coup, je m'aperçois que ce n'est pas vrai.
Ouais.
Mais c'est vraiment... et ça m'aide, finalement, ça m'aide énormément qu'on ne me l'ait jamais dit que je ne pourrais jamais faire ce que je veux en tant que femme parce que je pense que ça m'aurait mis des barrières énormes. Et là, je suis plus en mode... je peux faire ce que je veux, et puis il faut tenter, de toute façon, on verra bien.
T'as complètement raison. Quelque chose dont tu parles beaucoup dans cette vidéo, c'est la sélection en master, qui est un gros sujet pour les étudiants et les étudiantes actuellement. Moi-même, je vais y passer bientôt, puisque je fais ma L3 et j'aimerais faire un master après, donc c'est un gros sujet. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui vont se lancer là-dedans prochainement, voire cette année, ou qui ont l'espoir peut-être d'avoir un master? Et toi aussi, comment tu l'as vécu, la sélection, qui apparemment est quand même assez difficile dans ton domaine?
Alors, moi, le meilleur conseil que je peux donner et que je me donnerai à la moi du passé maintenant, c'est prévois des plans jusqu'à D à peu près, F, vraiment.
Wow.
C'est bête à dire, mais je pense que, en fait, quand on est dans les études, on est focus dans notre domaine. Moi, je voulais être psychologue. Dans ma tête, c'était clair et net, en mode, c'est pas... Ben, comme, je voulais vraiment... en mode, je peux faire ce que je veux dans ma vie, donc j'aurai mon master. C'est un peu dans cette lignée-là que j'ai fait.
Ouais.
Mais tout en sachant que, potentiellement non, que la sélection était rude, que je venais d'une fac... genre une fac très spéciale. Et que,
pourquoi très spéciale?
Parce que je viens d'une fac où déjà on est très centré psychanalyse, sachant
d'accord.
que
c'est science. Toulouse Mireille, comme ça.
Ouais, c'est ça. On a une très mauvaise réputation. C'est très porté psychanalyse, alors que moi ce que je voulais faire c'est de la neuroscience, donc c'est vraiment la science vs la non-science. Du coup, je pars déjà avec un malus. On a un stage en troisième année. Ça, c'est vraiment la pire chose au monde. On me dit un stage de 20 heures à faire tout sauf avec un psychologue. Donc,
ma foi.
Mes refus, mes refus de master ont été vous n'avez pas de stage avec un psychologue.
Forcément,
voilà.
Oui. Mais t'as pas le droit.
Oui, voilà. De toute façon, j'avais pas le droit. J'ai essayé. Ils m'ont dit oui, il faudrait que tu fasses un deuxième stage avec un deuxième rapport. Enfin, au bout d'un moment, tu sais, c'est surhumain ce qu'on me demande comme travail. Et même avec ça, voilà, je pars avec un désavantage. Donc j'ai une licence avec 14 de moyenne, mention bien, mais pas de stage, un projet pro qui est intéressant, mais après tout, c'est une machine qui trie tes dossiers. Donc ils ne lisent même pas ton dossier limite. Et c'est hyper frustrant de se dire j'ai mis 2h30 à faire des dossiers pour chaque master, et sûrement il n'y en a aucun qui les ont lus. Et ça, et c'est genre, il y a beaucoup de pistons, il y a beaucoup de tout ça. Et en parallèle, cette dernière année, ça a été une année d'énorme déconstruction. Je pense que c'est le début où j'ai encore... Enfin, à prendre conscience de tout ça. Et notamment avec ce système de méritocratie où on te dit travaille et puis tu seras récompensé. Ce n'est absolument pas vrai. Surtout qu'il y a des profs qui prennent des élèves en master parce qu'ils les connaissent personnellement.
Ah oui, d'accord.
Voilà, il y a du piston, il y a tout ça dans les études supérieures. Et du coup, c'est pour ça que il faut vraiment essayer de réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire qui pourrait nous plaire en dehors de notre formation, mais en lien. Genre, par exemple, moi, j'ai regardé pour même CPE, des trucs du genre, mais je l'ai fait trop tard. Ouais. Je l'ai fait après les refus, et ça fait que maintenant, je me retrouve à trop tard. Genre, trop tard pour me réorienter, trop tard pour faire quelque chose. Après, c'est pas très grave parce que je travaille et que j'ai déjà ma vie et que ça change rien à ce que je suis en train de faire dans ma vie. Néanmoins, je sais que quand t'es étudiant et que tu sors de là...
Ouais, c'est flippant. En mode,
voilà, tu te dis, je vais travailler un an à McDonald's et je vais faire quoi pendant ce temps. Du coup, c'est pour ça que je dis, il faut prévoir plein de plans, même s'ils n'aboutiront jamais, mais essayer d'ouvrir le maximum de portes et faire une liste de portes à ouvrir et de voir ça, et accepter que c'est possible. Que moi, j'ai accepté, ça y est, que je ne serai jamais psychologue.
T'as fait ce deuil-là de ton projet initial.
C'est ça. Et c'est vrai que ça a été plus compliqué pour mon entourage parce qu'ils étaient très inquiets. En mode... Enfin, tout le monde, même dans ma communauté, c'est en mode... Tout le monde me dit, t'es plus psychologue qu'une psychologue. Et du coup, leur dire, en fait, je serai jamais psychologue, c'est très dur de se dire, est-ce qu'elle est sérieuse? Ou est-ce que c'est juste parce qu'elle a les boules? Ou est-ce que... sauf que je me suis rendu compte... que c'est pas parce que c'est pas un titre en psychologie qui changera qui je suis et qui changera ma façon de penser ou ma formation ou mes motivations ou ma passion pour la psychologie. Alors peut-être que je n'aurai pas un titre officiel de psychologue, mais je pourrais faire plein de taf où j'ai cette approche en psychologie et c'est ça qui me plaît le plus. Et quand je vois que tu tapes tes 5 ans d'études, tu sors de là et finalement pendant 2 ans tu travailles pas parce que tu n'as pas de travail, et que du coup t'es psychologue d'état mais t'es pas psychologue au quotidien, et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'être psychologue d'état, ou est-ce que j'aime vraiment la psychologie pour ce que c'est en dehors du diplôme? Et je me suis aperçue que c'était l'option numéro 2 et que je pourrais très bien faire de la psychologie sans avoir un titre de psychologue.
Mais j'aimerais bien te demander, est-ce que tu as cette réflexion maintenant parce que tu as eu des refus et que, matériellement parlant, à part si tu recandidates l'année prochaine, de toute façon, tu ne pourras pas accéder à ça. Ou est-ce que tu penses, même si tu ne le sais pas, mais admettons, si tu avais eu ce master-là, tu aurais eu ce recul pour te dire, en fait, moi, j'aime la psychologie pour la psychologie et être psychologue d'État, c'est bien, mais... Enfin, voilà, toute cette réflexion-là, est-ce que tu penses que c'est conditionné par les refus que tu as eus?
Alors, oui, évidemment... mais j'avais commencé déjà à l'avoir parce que on m'a demandé de me spécialiser, et encore une fois problématique dans ma vie, c'est de faire un choix. Alors du coup j'ai fait un petit peu des choix par dépit, parce qu'au début je me suis dit, je vais travailler avec les personnes âgées parce que c'est là où il y a, parce que on sait que la sélection de master est rude, et donc c'est faire en EHPAD et tout ça avec les personnes âgées, il y a de la place, ou psychologue social, c'est-à-dire dans les entreprises, etc. Et donc je me suis dit, soit tu fais ce choix et tu pars là-dedans, mais ça te plaît pas du tout, mais t'auras ton titre, soit tu fais un truc qui te passionne, c'est-à-dire la neuroscience, et c'est le milieu le plus bouché de la psychologie. Donc voilà, après j'avais un bon dossier et tout ça, donc je me suis dit why not. Mais encore une fois, voilà, t'es dans une fac qui te, enfin c'est des, ça, tu pars avec un sac à dos qui est voilà, inégalitaire juste avec ta fac, même si t'as un bon dossier, quoi. Et donc, suite à ça, quand j'ai eu les refus, j'ai pas été triste. Enfin, si, j'ai une petite... je pense que j'ai eu en tout 15 minutes de... J'ai les boules, quand même.
Ouais.
Mais à la fois, j'ai su rebondir très vite parce que Je me suis toujours dit que ce qui comptait, c'était de suivre ce que j'aimais moi et pas forcément le reste. Et que depuis tout le temps, on m'avait dit de me spécialiser, de me spécialiser, de me spécialiser. Mais qu'en soi, je connaissais même pas le métier dans lequel j'étais en train de me taper 5 ans d'études. J'ai jamais fait de stage avec un neuropsychologue. Je sais même pas comment ça fonctionne. Mais on est en train de me dire, spécialise-toi dans un domaine que tu connais même pas. Et ça m'a gênée. Parce que moi, j'étais en mode, mais moi, je veux pas faire que psy avec des enfants, pas qu'avec des adolescents, pas qu'avec des personnes âgées, pas qu'avec des personnes suivantes de handicap. Et ça me gênait aussi parce que j'étais incapable de choisir la population avec laquelle je voulais travailler. Et surtout, j'étais en mode, je veux être psy, mais je veux pas faire psy face à face où j'écoute quelqu'un parce que ça m'intéresse pas, parce que j'adore échanger avec les gens. Enfin, il y avait plein de choses qui m'allaient pas dans le métier de psychologue en soi, mais sans en avoir réellement conscience.
Ouais, je vois très bien.
Parce bah, finalement, que socialement, ça te convient mieux. Socialement, c'est très valorisé d'avoir un titre, un master. Donc les gens, ils se disent si j'ai le master, c'est bon. Mais je sais que là, avant d'avoir vraiment ce dernier déclic qui m'a fait prendre conscience que oui, je serai plus peut-être jamais psychologue, ça a été vraiment ça. C'est, tu sais, ça m'a pris comme genre un souffle, quoi. Ça m'a c'est cette pensée qui est venue en moi et je ne l'avais jamais vue venir en 3 ans, quoi. C'était sûr et certain. Mais à la fois, je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas de master. Mais là, dans 2 ans, quand tu auras ton master, tu voudras faire quoi dans ta vie? Et je me suis dit, bah, en vrai, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de la vulgarisation scientifique. Par exemple, il y a Dorty Biology qui fait absolument le taf de mes rêves. Il a fait un master et tout, mais il vit de ce qu'il veut faire lui-même. Il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Et il vit de sa passion sans avoir une... Enfin, voilà. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'être neuropsychologue ou d'avoir un titre. Alors, évidemment, ça valorise socialement. Mais je pense que si tu continues à faire de la recherche, à te former à côté...
J'allais te le dire. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Surtout qu'en plus, tu as ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Dans ta tête, sur laquelle tu fais des vidéos qui sont beaucoup plus axées psychologie et tout ça, qui sera dans la description de cet épisode si les personnes veulent aller voir ça, qui, je pense, peut combiner tout ça justement avec les formations que tu peux faire à côté, tes connaissances, et donc tes connaissances de YouTube et des réseaux sociaux, parce que ça joue énormément. Tu peux arriver finalement à faire quelque chose qui peut vraiment t'épanouir pour le coup et pour lequel t'as même pas besoin d'avoir de master vu que t'as tes compétences déjà.
Oui, et puis en plus cette chaîne, donc Dans ta tête, c'est une chaîne plus axée sur le cerveau et le fonctionnement du cerveau. Et à chaque épisode, je prends un plaisir fou à... C'est comme si je faisais un cours en fait. Et à la base, je voulais mon titre de psychologue pour faire enseignant-chercheur et pour faire pour partager ma passion. Mais au final, je le fais déjà. Et après, c'est vrai que c'est mieux payé que YouTube.
C'est sûr.
Mais pas en France déjà, c'est pas si ouf. Mais c'est vrai que... Non, en France, t'es pas du tout bien payé en tant que psychologue en France. Hein, c'est...
Ah ouais? Même en libéral?
En libéral, mais c'est bouché de ouf. Donc, c'est comme tout. Alors que, bon, dans d'autres... Enfin, là, en France, la psychologie, c'est un fléau. On est très en retard par rapport à tout le monde. Enfin... il faut le faire avec sa métier de passion.
Oui, c'est sûr. Comme beaucoup de métiers de santé, du care.
Tous ces métiers-là. Et en plus, sachant que nous sommes payés un peu moins cher dans les métiers du social, parce que il y a plus de femmes et qu'on considère que c'est inné l'émotionnel chez la femme, alors que pas du tout.
Non,
bah
non.
Mais du coup, vu que c'est censé être inné, on est censé être payé moins cher qu'un diplôme où tu dois te faire travailler ta cognition, à ce qui paraît.
Ouais, c'est. On adore.
C'est génial. Mais c'est vrai que oui, voilà. Et je me suis dit, en vrai, tu vas continuer à faire ce que t'aimes au quotidien, donc. Titre de psychologie ou pas, je resterai psychologue dans mon cœur.
T'as raison. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, t'as appris le plus avec toutes tes études, avec ces 3 ans? Qu'est-ce qui t'aide au quotidien? Qu'est-ce qui, par exemple, tu parlais de l'aspect social que t'as réussi à un peu mieux appréhender. Qu'est-ce que tu tires de ces 3 ans?
Tout.
Ouais.
C'est pour ça que je suis pas si dégoûtée de pas avoir eu. Parce qu'on m'a dit, oui, mais Léa, t'as fait 3 ans pour rien? Alors, j'étais en mode, mais non. Ça a été les 3 années, je crois que ça a été les 3 années les plus riches de ma vie, en fait.
Ouais.
Ça a été une année où j'ai pris confiance en moi, en mes capacités, en mes envies, en qui j'étais. J'ai compris et déconstruit tellement de choses au quotidien qui m'ont servi pour tout, socialement. Bon, du coup, c'est un peu de la triche parce que quand t'es en psycho, t'as des clés pour manipuler qui tu veux, mais t'as aussi des clés pour socialement. Je peux parler à n'importe quelle personne en sachant quel ton employer parce que j'ai appris à le faire. J'ai appris à vivre en harmonie avec les autres, on va dire.
Ouais.
Et vu que personnellement, je suis très bien dans mon corps, dans ma tête et dans ma vie, ça fait que je peux aller vers n'importe qui et réussir à discuter sans qu'il y ait forcément de conflits, etc., etc. Et à mener des discussions, des fois, que si tu prends ton petit ego, etc. Voilà, ça marche pas forcément, mais c'est vrai que j'ai appris à... Mais il y a des gens avec qui je peux très bien communiquer, mais que je n'aime pas leur présence. C'est pas pour autant que voilà, je suis devenue un bisounours et que j'aime bien tout le monde.
Oui.
Au contraire.
Oui, c'est important de le rappeler, je pense. Ouais,
je suis devenue encore pire niveau amitié et amour. Il y a des choses qui passent plus. J'ai changé toutes mes relations sociales. J'ai fait le tri dans toutes mes amitiés. Genre, j'ai reconstruit. En fait, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo du changement. Je me suis aperçue que tout ce que j'avais compris n'avait plus de sens aujourd'hui parce que je me suis construite sur ce genre féminin en créant des relations qui étaient basées beaucoup sur ce superficiel, sur les apparences. Et grâce à toutes les déconstructions que j'ai faites via la psychologie et surtout via les enseignements en sociologie, qui étaient vraiment hyper, hyper passionnants aussi, bah, je me suis aperçue que y avait trop de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et du coup, bah, très naturellement...
tu t'en es détachée.
Ouais.
Mais c'est une vraie intelligence émotionnelle hein, de savoir faire ça. C'est pas facile et je pense vraiment que c'est une force aujourd'hui, vraiment, de pouvoir, comme tu dis, mettre son ego de côté pour avoir des discussions profondes et intéressantes avec quelqu'un, sans pour autant parler de sujets, mais tout en fait avoir cet échange qui est adapté à l'autre. Tout en restant toi-même. C'est quelque chose de très difficile à faire, je trouve. Et c'est bien que tu arrives à le faire. Moi, j'aimerais bien réussir à le faire aussi.
Alors, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail.
Oui, j'en doute pas.
Mais là, je vais faire une vidéo prochainement sur certaines clés que j'ai appliquées, notamment dans mon couple.
Ouais.
Parce que je vis avec quelqu'un.
Ouais.
Et c'est vrai que, bon, du coup, lui, il m'écoute beaucoup dans mes raisonnements, etc. Et du coup, ça fait que déjà, il a cette capacité d'écoute que beaucoup d'hommes n'ont pas.
Complètement.
Et c'est vrai que c'est vachement plus simple d'échanger avec lui, même s'il y a des choses que, ben, évidemment, en tant que genre masculin, il a intériorisé et qu'il a du mal à comprendre.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mais on arrive tous les deux à communiquer. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me dis que je suis quand même privilégiée d'être vraiment en harmonie totale avec qui je suis. Ouais. Et ça fait que quand je vais débattre avec quelqu'un qui je sens est piqué très rapidement dans son ego, je vais plus facilement me mettre à l'écart et me dire, entre lui et moi, il est plus mal que moi. À quoi ça sert que je continue à taper où il a mal, alors que moi je vais bien, au final ça sert à rien et du coup j'aurais plus de facilité à me mettre à l'écart et à prendre sur moi. Ouais, parce que il y a des gens, ils peuvent pas prendre sur eux et ça fait que ces gens après je les revois pas, je les refréquente pas, parce que c'est, du coup je dois un peu brimer celle que je suis.
Oui, complètement, tu peux pas être toi-même.
Et du coup aujourd'hui dans mes relations sociales, je suis qu'avec des personnes avec qui je peux débattre, comme toi et moi maintenant, avec qui on a des sujets hyper intéressants sur plein de choses, même si on n'est pas d'accord. Et j'ai arrêté toutes les relations où les seuls sujets c'est salut, ça va. Mais même quand je les rencontre, ça veut dire ça va tourner autour de j'ai ken des meufs, puisque c'est mes potes mecs de toute façon, donc je veux faire des tatouages, je veux m'acheter une maison, mon travail ça se passe bien. Et c'est des sujets qui sont intéressants, mais au bout de 3 heures, t'as plus rien à dire à la personne.
Oui, ouais, complètement. Bah oui, si t'as rien d'autre à échanger que des banalités, ça devient vite redondant. Je pense qu'on en connaît tous, hein, des relations comme ça, où tu te dis un peu tes actualités, et puis après, on sait plus quoi se répondre, quoi.
C'est... Du coup, moi, ça, je le garde plus du tout, parce que je me dis que c'est du temps que je pourrais accorder
à autre chose.
Ailleurs. Mmh. Ouais.
T'as bien raison. J'aimerais bien qu'on aborde, du coup, maintenant, le rapport au corps. Qu'on a un petit peu teasé avant, mais j'ai beaucoup de choses à te demander parce que c'est quelque chose que tu partages beaucoup, notamment le sujet du poids. Donc tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait une vidéo sur le changement que tu as nommé « Je regrette mes tatouages, évolution et réflexion », dans laquelle tu parles de ce changement qui a été à la fois physique et mental, et surtout mental, je pense, et la manière dont tu as évolué et comment aujourd'hui tu te sens dans ton corps. C'est une thématique qui revient beaucoup, celle du corps et celle de l'évolution aussi. En parcourant un petit peu ta chaîne pour préparer les questions de cette interview, j'ai vu pas mal de titres et de vidéos qui parlaient de ça. Notamment, je suis socialement grosse, j'ai peur de grossir, le tabou des seins qui a été une vidéo super intéressante, ton Draw My Life dans lequel tu nous parles un petit peu de tous ces sujets, ou encore j'ai été persuadée d'être grosse, entre parenthèses, dysmorphophobie. Déjà, pour commencer, pourquoi tu penses que ce sujet est aussi complexe pour toi, ce sujet du corps ?
Je veux juste dire un truc avant de le truc. C'est le changement, c'est une thématique que j'aborde beaucoup sur ma chaîne parce que il faut vraiment s'imaginer. Alors, je donne toujours cet exemple un peu énorme, mais j'étais cette personne très complexée dans son corps qui essayait de comprendre pourquoi. J'étais pas attirante c'était vraiment je cherchais à tout prix le regard de l'homme du coup c'est ce qu'on dit en gros les pick me là c'est ces filles qui cherchent à tout prix l'approbation de l'autre, enfin de l'homme. Et en fait je suis passée de cette fille qui était dans la superficialité, et c'est là où revient le discours de ma prof qui me disait t'es trop dans la superficialité, que je ne comprenais pas. Et en fait je passe de cette fille un peu entre guillemets socialement idiote, hein, je dis bien entre guillemets, à aujourd'hui, et donc j'ai commencé YouTube en étant cette personne, à aujourd'hui une personne qui a repris des études, qui est plus du tout cette personne là qui, enfin j'ai pris ces dernières années, je me suis concentrée vraiment à me cultiver, à comprendre le monde, à en fait je me suis aperçue que notre seule réelle liberté c'était celle de penser et d'apprendre. Et c'est vrai qu'en tant que femme on ne le dit pas assez. Genre on m'a toujours dit Léa tu penses trop, tu prends trop la tête, tu fais trop ci, tu fais trop ça, comme si penser c'était quelque chose de mauvais. Mais par contre on nous explique à nous maquiller, à nous habiller, à paraître pour l'autre, mais c'est un temps qu'on prend et que je trouve qu'on perd. Après ça c'est très personnel, mais je trouve que ce temps est... alors que les hommes ils sont plus à apprendre, à se cultiver, à comprendre le monde. Et du coup ça a fait que j'ai eu cette transition entre cette personne qui avec qui on pouvait pas vraiment échanger, qui échangeait que des banalités par manque de connaissances sur plein de sujets, à cette personne qui cette petite fille curieuse qui a enfin les questions, les réponses à ces questions qu'elle s'est tant posée en étant petite, parce que c'est un peu la blague de si on te demande, maintenant tu diras que tu sauras, parce que tu t'es fait chier à apprendre les choses pour pouvoir avoir des choses à dire et à appuyer tes propos. Mm. Et ça fait que c'est très compliqué les personnes de se dire cette personne et cette personne, c'est possible qu'il y ait autant de changements.
Oui, ouais, et oui. T'as eu besoin de l'expliquer.
Ouais, parce que c'est quelque chose qui revient énormément, énormément dans mes dernières vidéos en mode oh là là, t'as beaucoup changé, mm. c'est fou. Et je pense que ça s'est fait par la déconstruction et notamment bah, à travers mon corps aussi. Donc pour en revenir au corps,
oui.
C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que j'ai été la... Enfin, tous, on est pas en tant que femme, surtout, parce que bon, ça existe aussi, mais c'est plus féminin comme sujet.
Bien sûr.
On est nos propres bourreaux. En fait, on passe notre vie à, voilà, à perdre ce temps, à se martyriser dans tous les sens du terme. Hein, par exemple, le truc tout bête, je vais chez le coiffeur, j'ai horreur de ça, j'ai horreur d'aller faire du shopping, tout ça. Et je me suis forcée pendant des années à le faire, mm. juste pour l'autre, alors que c'est quelque chose que je trouve... Je préfère aller chez le dentiste qu'aller chez le coiffeur.
Ah oui.
Genre vraiment, c'est... Ah ouais, c'est chiant, puis à la fin tu ressors, t'as des beaux cheveux, le lendemain ils sont pourris, t'as payé ouais. 200 balles,
ouais.
ça me fait mal.
Ouais, je comprends, moi j'y vais plus personnellement.
Ouais, bah moi non plus, j'ai fou.
J'ai arrêté.
Mais du coup, ce rapport au corps et à tout ce bourreau que j'ai été pour moi-même qui m'empêchait en fait de penser. Mm. En fait, j'ai pris
ça prenait trop d'espace.
Ouais. Mais le poids a été pour moi une façon de contrôler. J'ai toujours ça c'est un truc encore tout récent dans ma vie à me rendre compte que à force de vouloir tout contrôler, ben ça me générait plus d'anxiété qu'autre chose et du coup, j'étais beaucoup moins heureuse, mais ça c'est en construction encore dans mon développement, mais c'est vrai que à travers le poids, c'était quelque chose que je pouvais comprendre et contrôler. Je comprenais oui. pas les autres, je comprenais pas pourquoi voilà Léa elle était pas assez jolie, etc. Mais oui. je comprenais comment je faisais pour maigrir, comment je faisais pour grossir, qu'est-ce que je pouvais faire et le fait de me peser régulièrement, etc., etc. Oui. J'avais un contrôle sur mon corps qui était totalement malsain, oui. mais c'était une façon pour moi de gérer mon anxiété en fait,
oui.
de me rapprocher à quelque chose.
D'accord, je vois.
Voilà. Mm. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai des fichiers vidéo de cette Léa là. Et j'ai toujours été à me dire qu'on ne sortirait, je ne sortirais jamais des TCA.
D'accord.
C'était pour moi impossible. Mm. Et j'ai revu une vidéo où, bah, du coup, enfin, dans la vidéo, je suis socialement grosse, je crois. Mm-hmm. Je montre Non, c'est dans les salles des TCA. Je remonte une vidéo de moi il y a 5 ans quand je me rends compte que j'ai des TCA parce que, évidemment, c'est tellement banalisé le fait de vouloir maigrir. Parce que, bon, TCA là,
oui.
on le dit brièvement, mais ça regroupe énormément de choses. Alors, du coup, je vais juste préciser que moi, c'était vraiment précisément anorexie, boulimie et hyperphagie.
Oui, tu fais bien de le dire.
Parce que c'est tellement vaste que c'est pas pareil pour tout, mais en tout cas pour ça, c'est considéré le fait de vouloir perdre du poids de façon obsessionnelle, c'est considéré comme un TCA. Mm. Et c'est limite normal, et c'est fou parce que aujourd'hui que j'ai plus de problème avec mon poids, je m'aperçois que toutes les filles autour de moi, quasi, elles sont toujours en mode « Ah, je fais pas de régime, mais ça je vais pas en manger
ouais. ».
J'ai l'impression que, ouais. que 90% de mes potes font toutes pas de régime, mais un régime quand même. Mmh. Genre, ah oui, non, mais on va. Ben, c'est vraiment. Ah non, on va pas manger ça à l'apéro. Ah Léa, t'aurais pas dû faire du fromage. Ah Léa. C'est toujours en mode, oh là là, le summer body. Mmh. Et c'est des trucs. Avant, j'étais la personne qui les disait. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, ça. Ah
ça t'irrite.
Et je me dis. Ah. Et je me rends compte que c'est un sujet tellement banalisé qu'il fallait que j'en parle.
Mmh.
Et c'est devenu un sujet récurrent parce que, à travers mes vidéos, j'essayais aussi de me comprendre parce que chaque vidéo en fait du moment où tu parles à l'oral et tu mets des mots sur des mots ben ça avance en fait, c'est pour ça qu'il est important de toute moi j'écris mes idées, j'aime bien voir l'évolution genre de tout, je note tout dans des cahiers depuis des années parce que je trouve ça intéressant de noter parce qu'à chaque fois que tu notes et ben après tu peux approfondir de plus en plus en plus avec tes idées au fur et à mesure et un peu ces vidéos m'ont servi un petit peu de thérapie à la fois à moi et aux autres à travers mes questions et c'est vrai que c'est un sujet que je trouve à la fois hyper passionnant et hyper intéressant socialement parlant quoi.
Et quel regard tu as du coup sur les youtubeuses notamment qui sans citer de nom spécifiquement ont tendance à un petit peu faire l'apologie de toutes ces choses là Je pense à une en particulier qui admet avoir des TCA, mais qui a constamment ce contrôle sur son alimentation et sur son poids. Et ça se ressent énormément dans ses vidéos, et ça, dans plein de vidéos différentes, même dans des vidéos de Fit Girl, par exemple, qui vont partager des recettes, etc. C'est quoi ton regard à toi sur tout ça ?
Alors, en fait, moi, j'ai vraiment deux noms en tête, et c'est pas du tout les mêmes TCA qui sont dans ma tête. En fait, j'ai ce double regard. Ce regard humain qui me dit que c'est compliqué parce que ces personnes sont dans un déni total et ne se rendent pas compte. Donc, je peux pas leur en vouloir parce que, en fait, quand t'es dans le déni de tout ce que t'es et de tout ce que tu fais, tu penses que tu fais au mieux. On dit jamais, c'est moi, on veut toujours être un peu le chevalier de notre propre histoire, donc on essaye toujours de faire au mieux. Et je pense que ces personnes, elles ont beaucoup de pression, elles se mettent beaucoup de pression elles-mêmes.
Ouais.
Et du coup, je ressens beaucoup de tristesse plus pour ces personnes que de la haine. Mais à la fois, je suis effarée quand une youtubeuse, donc pour ne pas citer le nom, nous dira qu'elle n'a plus de TCA. va nous faire des petites vidéos sur les TCA, conseils ou même des grosses vidéos conseils, alors que la personne est en plein dans les TCA mais s'en rend pas compte.
C'est dangereux.
Ouais. En fait, moi, c'est vraiment globalement que pas sur les TCA, mais qu'en fait, la psychologie, c'est pas juste écouter une copine parler, c'est une science. Tu peux pas parler des maladies mentales si t'as pas le recul et les études nécessaires. Et les TCA, une fille que je connais, qui a une toute petite communauté, avait dit dans une vidéo, oui, pour contrôler mes TCA, je bois de l'eau pour couper la faim. Mais tu peux pas dire ça dans une vidéo tips contre les TCA, parce que c'est bien un truc qui amplifie les TCA. En fait, si t'as faim, tu manges, c'est tout. Et les seuls conseils qu'on peut donner dans les TCA, c'est juste essayer de prendre un truc plus large, essayer de faire prendre faire prendre conscience à la personne. Pas qu'elle est grosse ou pas grosse, ou pas comment perdre ou pas prendre du poids, mais déjà essayer de lui faire comprendre que ça vient de plus haut et que son envie de perdre du poids, c'est quelque chose qui a été influencé depuis toujours et qu'en vrai, elle est très bien comme elle est, tu vois. Et c'est vrai que ces conseils ou ces tips pour lutter contre les TCA, pour moi, ça n'a aucun sens et rien à faire sur YouTube, sauf déclencher plus de crises. Et même les 24 heures dans mon assiette, toutes ces vidéos un peu comme ça qui sont à la fois si innocentes et à la fois si problématique dans le fond. Et c'est vrai que je peux pas faire la policière sur toutes les vidéos YouTube.
Bien sûr.
Donc
bien
c'est
sûr.
Vrai que des fois j'en parle un petit peu moi en story et je cite des personnes toujours un peu dans la bienveillance, etc. de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce double regard en mode un côté j'ai envie de les secouer et d'un côté je me dis j'ai fait les mêmes erreurs moi aussi et c'est humain.
Oui,
quoi.
Exactement, c'est humain. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu très brièvement de l'alimentation intuitive, je sais pas ce que t'en penses, mais j'en ai parlé avec Cindy Gagnol qui est également sur YouTube, sur une interview, et c'est quelque chose qui finalement est tout à fait normal, puisque c'est simplement le fait de manger quand on a faim, etc. Enfin, c'est toute une méthode, mais qui finalement ça rapproche le plus possible de l'alimentation la plus naturelle qui soit. T'en penses quoi, toi, de ça ? Des personnes qui font des vidéos, par exemple, sur ça aussi ?
Alors, pour le coup, moi, j'en parle aussi de l'alimentation intuitive. Évidemment, il faut toujours préciser plein de choses sur les vidéos, qui soient sur l'alimentation, sur la psychologie, sur tout. Il y a plein de choses à prendre en compte. On est tous différents, notamment, on a une hormone... Enfin, je sais pas si c'est une hormone, mais en tout cas, on a de la leptine. Et si c'est une hormone, ça aide à savoir si on a plus faim. Sauf que des fois, quand t'es un petit peu en surpoids, t'as cette leptine qui vont... Enfin, en gros, dans notre graisse, on a des hormones qui circulent. Et en fonction de si t'en as trop de graisse ou pas assez, puisque bon, on valorise énormément la maigreur comme si c'était ça, alors qu'il y a autant de problèmes de santé de tous les côtés. Hein,
c'est clair.
Parce que c'est même pas... C'est un débat social tellement, tellement, tellement long et épineux quand même. Mais en soi, t'as des hormones qui vont être mal...
Distribuer.
Mal envoyé dans ton corps, voilà, distribué. Et ça fait que, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à la leptine et qui n'ont pas ce sentiment de satiété, etc. Donc il faut être sûr, de bien connaître son corps et ça prend du temps. Et il y a plein de phases dans l'alimentation intuitive. Et moi, je fais que dire que si on est toujours avec cette petite pensée dans la tête de se dire « je veux maigrir », il faut absolument pas faire l'alimentation intuitive. C'est D'abord, il faut déconstruire et après essayer de... après, ça devient la logique, c'est même plus essayer, c'est logique de passer à quelque chose de normal, c'est-à-dire de manger. Par exemple, mes copains du genre masculin, ils mangent tous de façon intuitive.
Oui.
Genre, mon copain, genre, il me disait, parce que moi, souvent, je disais, ah, moi, tu vas manger tout ça et tout. Parce que, voilà, dans mes TCA et tout, il me disait, bah oui. J'étais en mode, ah. Et mais c'est vrai que lui, il n'a pas du tout problème de tout ça.
C'est naturel.
Et ouais, c'est naturel. Et il y a plein de gars qui font ça depuis toujours.
Ouais.
Et je trouve ça fou que moi, ouais, je découvre ça genre à mon âge, alors que j'ai passé ma vie à faire attention à tout ce qui rentrait dans mon ventre, à tout ce qui ressort, puisque j'ai des problèmes d'intestin. Donc, donc voilà,
oui,
mais c'est vrai,
vrai
que lui, il n'a pas de problème. Et ça a été... mon copain, ça a été un énorme pilier dans mes TCA. Je sais qu'il y a une... On dit toujours, oui, il faut toujours être seul pour se construire, mais en fait, on peut très bien se construire à deux. Et des fois, quand tu trouves une personne avec qui... qui est un peu dans ce mindset de déconstruire et de discuter un peu sur tous ces sujets, ben, moi, sans lui, je pense que j'en serais pas aujourd'hui. Enfin, là, aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne mon quoi.
Ça t'a vraiment aidé, en fait, à avancer dans toutes ces problématiques.
Ouais, ça m'a aidé parce que... j'avais une vision déformée de la grosseur parce que ma maman, elle s'est toujours trouvée très grosse et elle était très complexée par son corps. Moi, elle m'a jamais mis la pression pour le mien, mais comme elle se voyait grosse alors qu'elle ne l'était pas, j'ai associé ma mère à quelqu'un de gros alors qu'elle n'était pas. Ça veut dire que tous les gens qui étaient comme ma mère étaient gros. Ça
D'accord.
veut dire que
c'était ton échelle de valeur en fait.
Voilà, et elle n'était pas bonne.
Ouais.
Parce que, et ça fait que moi, mon échelle de valeur n'était pas bonne. Et ça fait que même quand je pesais 47 kilos, 50 kilos, vu que j'avais encore du bourrelet, j'étais grosse. Et du coup, je sais qu'on va en parler après, mais il y a ce truc de dysmorphophobie. Dysmorphie ou dysmorphophobie. C'est le fait de ne pas se voir réellement comme on est. Et ça, c'est totalement le cas typique de ça. Et en fait, j'ai un truc qui m'a particulièrement marqué, c'est on était en voiture et on a parlé de Mia Khalifa. Parce que j'ai tout tombé dessus et je lui ai dit, ah, elle est grosse quand même. Et puis il m'a regardé, il me dit, mais non, tu parles de l'actrice. J'étais en mode, oui, oui. Il me dit, mais elle est pas grosse du tout. J'étais en mode, mais si, regarde. Alors je lui montre les photos et là, elle est pas grosse. Il me dit, non, non. Et j'étais en mode, mais attends, mais si elle est pas grosse, je suis pas grosse. Il me dit, mais non, mais t'es pas grosse. Alors du coup, il a commencé à me montrer plein de photos de plein de meufs. Et j'étais en mode, elle est normale. Il me dit, non, elle est super, super mince, Léa.
Ah ouais,
d'accord. Ah ouais. Et alors du coup, et à partir de ça, de ce jour-là, le soir, je suis rentrée chez moi. Et je me suis plus du tout vue comme grosse. Mais par contre, du coup, après, ça a fait le chemin inverse. Parce que du coup, après ça, vu que j'étais encore dans mes TCA, j'ai fait une phase de boulimie qui a duré très longtemps.
D'accord.
Et j'ai pris 15 kilos suite à cette discussion,
oui,
après tout. Parce que vu que j'étais pas grosse, pourquoi je me privais de manger et toutes les années de restrictions, je les ai pris.
D'où le problème d'avoir des TCA et le problème du moins, d'où le fait en tout cas d'avoir des TCA et de faire attention à notre comportement.
Ouais.
Parce qu'on peut pas forcément prévoir comment on va réagir à une simple discussion, par exemple.
Ouais, c'est ça. C'est des déclencheurs.
C'est des déclencheurs.
Et c'est pour ça que c'est important d'en parler avec des pincettes, de rappeler toujours qu'on est tous différents, etc. Et essayer de le faire de façon bienveillante, sans pointer du doigt ou sans dire « oh là là ». Voilà, moi, quand je vois... J'ai une copine très proche de moi qui a des TCA vraiment très énervées. J'étais effarée quand j'ai entendu... elle pèse tout, elle fait des prises de sang toutes les deux semaines pour être sûre.
Ah oui.
Elle fait des massages lymphatiques de 2 heures tous les jours.
Mm.
Elle fait du sport... Bref. Et en fait... j'ai préféré rien dire parce que je lui ai dit t'es au courant que c'est pas sain et tout, elle m'a dit oui je le sais mais elle m'a dit je me vois pas faire autrement pour l'instant et je me suis dit elle est déjà tellement au fond du trou et je sais tellement tout ce qu'elle a à parcourir pour s'en sortir et je pense que le pire c'est qu'elle s'en sortira sûrement jamais tellement qu'elle est enfoncée dedans. Et le truc c'est qu'avec les TCA il y a très peu de personnes qui arrivent réellement à s'en sortir parce que on pense vraiment que la déconstruction se fait par des tips mais c'est pas ça, c'est toute une psychologie derrière, c'est toute une compréhension, c'est une des maladies psychologiques compliquées, hein. On s'en sort parce que voilà, c'est pas à vie, pour ça il faut prendre un recul. Voilà, moi je me dis toujours, quand je disais je veux sortir des TCA, je voyais une montagne, et maintenant que je suis passée de l'autre côté, c'est plus une montagne, c'est genre, c'est énorme.
Tu te rends compte de tout ce que t'as traversé.
Ouais, et je me rendais même pas compte d'à quel point j'étais au fond du trou. moi, j'étais en mode, j'ai juste à remanger bien et c'est tout. Alors que là, je suis encore en... Enfin, j'ai plus de TCA, mais je suis encore en train de réapprendre à manger, alors que ça fait, là, ça va faire un an que je suis réellement sortie. Mais pendant 2 ans, j'étais en train de sortir petit à petit. Et quand t'es sortie, tu le sais. Parce que des fois, on me demande comment on le sait, mais...
Tu le sais.
C'est... Voilà, et j'essaye vraiment de donner mes clés en leur disant réellement que il faut se battre et qu'il faut consulter parce que tout seul, c'est pas possible. Moi, j'ai fait des études de psy à côté, etc., donc ça m'a aidée. Mais seul, c'est très compliqué.
Oui.
Et c'est pas des tips de boire de l'eau ou faire des trucs dans le bail. Enfin, c'est vraiment les pires choses.
Puis, comme d'habitude, les personnes qui nous écoutent retrouveront en description un maximum de liens que je peux mettre pour cette thématique-là. Notamment, par exemple, des rendez-vous gratuits avec des psychologues, si jamais ça peut aider. Comme tu l'as dit, tu fais le lien entre poids et société. Est-ce que toi, à ton échelle, tu as vécu de la grossophobie ? Donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, mais toute cette haine qui existe envers les personnes grosses, et si oui, sous quelle forme ?
Alors, en fait, je ne suis pas légitime à en parler parce que moi-même, j'ai été tellement grossophobe que je ne l'ai jamais vu, en fait. Je ne pouvais pas le voir. Néanmoins, aujourd'hui, tout bêtement, j'ai regardé une vidéo qui datait de 2018 d'un homme qui a analysé une de mes vidéos. Et à un moment, je disais que j'étais tellement perdue qu'à un moment, je voulais faire de la chirurgie esthétique. Et il a dit, non, mais pas besoin, il fallait juste perdre 10-15 kilos parce que voilà, c'est une femme forte avec du caractère. Et les femmes fortes avec du caractère, elles sont un peu grosses et tout. Alors que sur la vidéo, je fais 50 kilos.
Wow.
Je ne peux pas perdre 15 kilos. Après, il dit, oui, après, il faut mettre un peu de volonté quand même avec tout ça. Et là, aujourd'hui, je le prends en mode grosse claque.
Ouais, c'est vrai.
Même si là, je le vois, mais toute ma vie, je n'ai pas été capable de le voir. Parce que j'étais moi-même dedans, donc au final pour moi c'était pas de la grossophobie, c'était normal. C'est parce que t'as un peu de gras, donc c'est normal qu'on dise que t'es gros, et puis voilà. Et puis j'étais éduquée un peu là-dedans, donc ma mère qui se trouvait grosse, même si elle embêtait pas les gens et qu'elle m'embêtait absolument pas moi, c'était en mode être gros c'est égal à être un monstre.
Ouais,
c'est tout bête.
T'as été éduquée dans tout ça en fait, et
ouais.
C'est toi qui as pu te déconstruire seule.
Ouais, et là je suis en train de déconstruire ma mère.
Sacré travail, non ?
C'est on en parle beaucoup parce que je vois que ça la ronge et que ça l'a toujours rongée. Et récemment, elle m'a appelée pour me dire qu'elle avait fait un rêve où elle était grave à l'aise dans son corps et que personne ne la regardait et tout. Et elle m'a dit, ah, ça marche bien ce que tu me racontes.
comme si t'étais une magicienne, tu sais.
Mais c'est parce que je sais trouver les mots comme je l'ai vécu et que, comme j'ai cette approche en fonction des gens, etc., je sais, je ne parle pas de la même manière.
Oui, bien sûr.
À ma mère qu'à quelqu'un d'autre, et je sais très rapidement, y a tout le non-verbal d'une personne où il ne faut pas appuyer, où il faut appuyer, etc. Et ça fait que j'arrive à trouver les mots juste. Pas toujours, hein, mais j'essaye en tout cas. Et c'est vrai que c'est des sujets où voilà, il faut y aller avec de la bienveillance. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je lui dis des fois, un bourrelet, c'est pas grave. Je dis, tu vas pas mourir. Mais quand je repense à la petite Léa de 15 ans, si elle me voyait aujourd'hui, elle dirait, oh là là, qu'elle est grosse. Et je me disais tout le temps... Si j'avais ce corps, je serais pas heureuse, et que si j'étais pas heureuse parce que j'étais grosse, et que si je perdais des kilos, je serais plus heureuse. Et j'ai une copine à moi qui est toute mince, elle doit faire un 34, et elle a un physique incroyable. C'est une fille qui est socialement au-dessus des normes sociales, c'est une fille qui est très belle, tous mes potes garçons ils sont amoureux d'elle. C'est la fille au lycée, celle que je comprenais pas.
Ouais.
Et aujourd'hui maintenant je le comprends. Mais et c'est une fille qui est hyper complexée, elle est plus complexée que moi avant cette prise de poids.
Oui.
Elle veut faire de la chirurgie, elle se trouve pas assez bien, elle trouve pas qu'elle a pas assez de fesses, pas assez de ci. Et en fait, indirectement, je me suis dit, mais en vrai, même si je faisais son corps, je serais pas satisfaite parce que, en fait, c'est pas mon corps le problème, c'est dans ma tête. Et c'est pas mon paraître, en fait. On met trop de temps avec la glorification du glow-up physique. En mode, quelqu'un qui change de physique, c'est quelqu'un qui est rayonnant, qui va bien, etc. Alors que pour moi, les plus gros glow-up physiques, c'est souvent des gens qui sont vraiment mal à l'intérieur, qui n'arrivent pas à passer ce truc.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on finit par faire un max de chirurgie, un max de régime, un max de sport, pour correspondre toujours plus à ces normes sociales du paraître féminin, du genre féminin. Mmh. Et pour moi, c'est pas synonyme de bien-être mental, puisque c'est une pression sans cesse, c'est une compétition avec les autres filles, c'est toujours avoir besoin du regard de l'autre pour exister, et on sait très bien qu'on peut pas vivre pour l'autre. C'est impossible de plaire à tout le monde.
Complètement.
Donc, grâce à tout ça, j'ai réussi à me dire que moi, avec mes 15 kilos en plus, j'étais mieux, et j'ai jamais été en aussi bonne santé qu'aujourd'hui avec mes 15 kilos en plus.
Justement, aujourd'hui, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que tu fais, puisqu'on va parler au présent, pour appréhender à la fois ton corps et ton mental, et surtout à faire un lien entre les deux et à te sentir bien avec les deux en même temps, sans les dissocier comme on a tendance à souvent le faire aussi.
En fait, je pense que faut d'abord soigner le mental avant de soigner le physique. Mmh. Mais le truc, c'est que tu peux être bien dans ta tête et être, entre guillemets, négligé socialement.
Ouais.
Pour moi, ça n'a pas forcément un lien. Mmh. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est une déconstruction que même encore je vis, parce que j'ai vécu toute ma vie en pensant qu'avoir un bourrelet, c'était la pire chose. Et des fois, je mets des tenues et je me dis « Ah non, ça fait grosse et tout. » Et je vais me balader en culotte et dire à mon copain « Oh là là, t'as vu là je crosse de là et tout. » Et lui, il est en mode « Mais non, n'importe quoi et tout. » Et je lui dis « Oui, je sais, mais c'est social, mais pas vraiment, tu vois. »
Oui.
Et du coup, et c'est vrai que des fois, je me dis « Oh là là, j'aime pas mon ventre, etc. » Et on a fait des photos de moi en sous-vêtements, et j'ai partagé une sur YouTube où on voit mon bidou. Et c'est vrai que cette photo, elle a été très dure à poster pour moi, parce que c'est la première photo depuis tout le temps sur ma vie de YouTube, c'est-à-dire depuis quasi 10 ans, où je suis vraiment naturelle sur une pose. C'est-à-dire que même quand j'étais ultra mince, je rentrais le ventre, et je faisais toujours des poses un peu flatteuses, parce que le gras qui découline, c'est pas socialement beau, mais c'est la vérité. En fait, c'est un corps quoi, vivant. Et quand je l'ai montré à ma mère, elle m'a dit « Oh, mais c'est pas ton ventre, ça !» et j'étais en mode « Bah si !» et tout. Elle m'a dit « Oh là là, mais c'est pas possible !» et du coup, je l'ai pas mal pris, parce que je sais qu'elle est au fond du gouffre et pas moi. Et du coup, je lui ai dit « Mais tu peux pas me dire ça et tout. » Elle me dit « Oui, je sais, c'est moi. » Elle m'a dit « Je sais que c'est moi le problème et tout. » Mais c'est vrai que... elle me dit « T'as toujours été très très mince, en fait. » Enfin, finalement, voilà. Et elle me dit « C'est vrai que moi, je le vois pas à travers tes vêtements, etc.
»
Et finalement, j'ai mis beaucoup de temps à savoir si je voulais poster cette vidéo ou pas. Et je l'ai postée, et j'ai reçu... tellement de messages, ça m'a tellement émue de voir tous ces retours, etc. Et aujourd'hui, je vis avec mon corps à l'instant présent. En fait, c'est un peu finalement la chose la plus importante, c'est que j'ai surtout appris à vivre l'instant présent. Arrêter de vivre dans l'espoir, j'ai toujours un peu d'espoir normalement pour des petites choses, mais en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est plus de savoir comment je serai demain, mais c'est de me dire je suis bien aujourd'hui. Alors, il y a des jours où je vais être... En période de règles, je vais avoir un peu plus de bidou. Des périodes où je vais être en période de pas du tout de règles, et que je vais avoir fait une randonnée, donc je vais avoir moins de ventre. Et en fait, notre ventre, et mon corps, il évolue, il change. Ma peau, tu prends de l'âge, je vois des petites rides, je vois ma peau change, tout change, mon corps change. Et je le prends pas en mode mal, moi c'est plus quelque chose que j'analyse et que je me dis « Oh, c'est marrant !» Et la dernière fois, j'étais devant mon miroir et je regardais et je me suis aperçue que j'avais eu un petit peu de cellulite en dessous du ventre, donc j'en avais jamais eu avant. Et je me suis dit « Apprécie ce que t'as maintenant, parce que c'est possible que demain ce soit pire.
» Oui, c'est sûr.
Du coup, j'ai appris vraiment à vivre maintenant, pas dans l'espoir que demain ça ira mieux. Je pars du principe où... on se dit toujours, oui, ça ira mieux quand j'aurai une nouvelle maison, quand j'aurai 10 kilos en moins, quand j'aurai fini mes études. Mais en vrai, pour moi, c'est maintenant qui compte. C'est pas de vivre dans le futur, c'est de vivre maintenant, dans le présent. Et c'est le plus important. Et aujourd'hui, je me sens bien dans mon... Enfin, déjà, manger, c'est plus un combat. C'est-à-dire, je mange, genre en mode, j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. Du coup, ça fait que je mange beaucoup mieux. J'ai réappris à mâcher, à prendre du temps pour manger. Après, j'ai cette chance de travailler de chez moi, donc je peux le faire. Mais j'ai redécouvert la bouffe, des goûts. J'ai plein de choses que j'aime plus. J'arrive à trouver de la beauté dans des corps que je ne trouvais pas avant. Et maintenant, j'ai tendance à avoir plus de filles avec des corps, entre guillemets, dans les vrais standards. Pas dans les normes, mais dans les vrais standards. Et ça fait que même les poils, tout ça, avant les poils, j'étais en mode c'est pas possible. Alors que maintenant, il y a plein de meufs avec des poils, je suis en mode... Mais moi, je trouve ça même plus beau, limite. Et c'est fou, parce que je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps dans mon feed d'actu, que j'avais vraiment aujourd'hui des corps bien loin de ces Photoshop, parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, je connais que, enfin, je sais que beaucoup de gens du milieu qui se disent déjà sortir des TCA, mais retouchent leurs photos aussi par la même occasion. Du coup, ça reste un peu en mode. Donc voilà, et je fais vraiment cet effort d'éviter de mettre des filtres sur mes stories. Alors des fois, ça m'arrive parce que bah, des fois, genre, t'es un peu en bad mood. Du coup, t'as un besoin de cette protection physique. Parce qu'en fait, dans le paraître, c'est un peu ta protection contre les attaques du monde.
Oui, bien sûr.
Parce que si tu es beau, les gens vont, avec cet effet halo, te dire « Ah, elle est meilleure que les autres, elle est plus
ouais.
Enfin, la oui, beauté non, apporte sûr. Plein de choses qui ne devraient pas, parce que c'est pas de ça qu'on devrait juger les gens, c'est sur ce qu'ils sont à l'intérieur. Mais il y a des règles qu'on est obligé de suivre. Mais c'est vrai que j'essaye vraiment de me mettre sans filtre au maximum et de poster des vrais trucs sincères et bruts, en tout cas sur mon corps, parce que ce serait un peu hypocrite de faire du hashtag body positive, et comme beaucoup, et ça c'est un prochain sujet aussi, est-ce que le hashtag body positive est hypocrite?
Gros sujet, ouais.
Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent mais qui sont pas du tout body positive et qui
bien
sont
sûr.
Plus grossophobes qu'autre chose.
Évidemment, c'est certain même. C'est...
Ouais, et ça c'est un sujet qui me gêne beaucoup. Bah, des fois, je me dispute avec des gens, du coup.
C'est vrai.
Parce que, bah, genre, la dernière fois, il y avait une fille qui body positive à mort, qui explique qu'elle ne rentre plus dans son jean et qu'elle va faire un jeûne intermittent. Mais à côté de ça, elle a fait du marketing autour du body positive.
Ouais, c'est les dérives de tous ces mouvements, en fait.
Ouais.
Tu as un mouvement qui, à l'origine, a vocation à être vraiment libérateur pour les femmes, notamment, mais pour tout le monde. Qui va forcément à un moment donné être récupéré par les standards de la société.
Ouais,
c'est inévitable, je pense.
C'est ça. Et du coup, ça me. Voilà. Et donc, je fais cet effort et j'essaye, moi, de plus promouvoir de produits. Enfin, par exemple, j'ai été à un événement et il y avait un stand entier de trucs rasage, etc. Et il y avait un truc qui m'a choquée. Il y avait une photo avec écrit féminisme, prends ton corps comme tu l'es,
ouais.
Avec ou sans poils.
Je le vois tellement, non. Ça.
Et ça, genre. Oh là là. Et mon copain, il me dit. Il rigole, bon, on rigole du coup, et il me dit, bah, d'un côté, c'est pas plus mal. Je dis, non, tu peux pas, genre, mettre juste le féminisme là. Tu peux dire, prends ton corps avec ou sans poil, ok, mais tu mets pas les slogans féministes,
ouais.
Parce que c'est du marketing, et ça me gêne.
C'est
et
du
ça
pur fait marketing.
Que, ah ouais, parce que c'est comme, genre, dire, enfin, on contacte énormément de trucs pour perdre du poids, des wraps, des trucs minceurs là et tout, en mode, oui, mais parce que ta communauté, peut-être, non, genre, des balances et tout ça, non, tout ça,
ça n'a aucun
pas,
sens.
Voilà, tout ce truc qui. Sont dans le paraître, donc les vêtements, j'ai pas le choix de m'habiller, donc de temps en temps, non, j'accepte plus trop de choses là-dessus, mais tout ce qui va dans le sens de la norme sociale de la meuf, je refuse tout. Bah, j'ai perdu énormément d'argent avec ça,
oui, tu m'étonnes.
Parce que j'ai commencé à refuser énormément de choses, mais pour moi, tu peux pas te dire body positif et féministe, et après ça, vendre des trucs qui sont... très patriarcale en fait,
ouais.
Qui voilà. Après, je dis pas que se maquiller c'est une mauvaise chose ou s'habiller c'est une mauvaise chose. Je dis juste que moi, je me trouve pas légitime à promouvoir et à faire acheter ce genre de choses à des personnes. Mmh. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ça serait contraire à ce que je fais et à mes valeurs et même de retoucher mes photos. Je peux pas me dire body positive et mettre des filtres H24 sur mon visage.
Bien sûr.
Si moi je m'accepte pas, comment je peux dire à l'autre de s'accepter? C'est assez hypocrite au final.
Bah, merci beaucoup, parce que je pense que c'est des choses qu'on a besoin d'entendre, donc c'est cool que tu en parles, et aussi bien en plus. Merci d'avoir parlé de tout ça, merci d'avoir partagé ça en tout cas avec les personnes qui t'ont écouté. On arrive sur les petites questions de fin d'interview que j'aime bien poser à mes invités, j'ai un peu de mal. La première question que j'aimerais te poser, c'est par rapport à ton futur. Si tu avais la possibilité, ou si tu avais envie tout simplement d'écrire une lettre à ton futur toi, donc par exemple dans 5 ans, qu'est-ce que t'aimerais te dire?
Alors moi, je me dirais juste une phrase.
Ce serait quoi?
C'est « continue de penser ». Voilà, parce que vraiment, c'est un truc... J'ai repris ma pensée il y a un an, mais quand je dis penser, c'est que je pense... Beaucoup. Et du coup, bon, mon copain, on paye les frais parce que du coup, je suis obligée de lui partager tout. Donc maintenant, j'écris beaucoup. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit, ben voilà, tu réfléchis trop, tu penses trop. Alors que c'est une force.
Bien sûr.
De penser, de se questionner. Et puis bon, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Donc voilà, penser, c'est quelque chose qu'il faut plus jamais que je mette de côté. Parce que je l'ai mis de côté pendant trop longtemps.
Puis c'est une force en plus. C'est quoi tes objectifs pour l'avenir? Si tu en as.
Ça va dans la suite de l'espoir et tout. J'ai pas. En vrai, je pourrais pas. Je me projette pas trop dans le futur, dans le sens où je sais pas. Comme d'habitude, j'ai pas de.
T'as pas de plan.
Voilà. J'aimerais beaucoup continuer d'apprendre des choses et tout ça. Mmh. Là, je vais m'orienter vers le social. Mmh. On verra ce que ça donne, si cette année ou pas, je reprends les cours. Bon, logiquement, oui. Mais du coup, c'est un peu en suspens. Mais je veux vraiment continuer de m'épanouir et faire des activités plein air. C'est un truc très bizarre, mais je me suis découvert une passion pour la randonnée. À 28 ans.
J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Plus on avance, plus on grandit, plus on a de la randonnée ou les balades. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie et on s'est fait cette réflexion, c'est drôle.
Ah ouais. Mais c'est vrai que je pense que j'ai un peu bouclé un peu cette, d'être tout le temps enfermée avec le confinement et tout.
Ouais.
Et puis notamment avec mes TCA et tout, j'ai eu toujours une très mauvaise image de l'activité physique. J'en faisais pas. En fait, si ça ne me servait pas à perdre du poids, ça n'avait aucun intérêt.
D'accord.
Et aujourd'hui, en fait, quand j'étais petite, j'en ai fait au taquet, beaucoup de rando. Mmh. Mmh. Et là, avec mon copain, c'est des moments où on kiffe tous les deux. Et j'adore être en plein air. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien. C'est très bizarre comme objectif, mais...
Non, mais c'est bien. Moi, je trouve ça logique.
Voilà. J'ai pas franchement plus d'objectifs parce qu'en vrai... aujourd'hui je suis très heureuse dans tout, donc ça serait je sais pas continuer, on verra bien en fait, c'est ça.
Est-ce que tu peux dire que t'es heureuse aujourd'hui?
Du coup oui, je pense, je sais qu'il y a un peu un mythe, le fait qu'on nous fait croire que être malheureux c'est normal, et souvent il y a des gens qui me disent oui non mais si je suis malheureux c'est normal, mais en fait alors non. C'est pas normal. Genre, c'est quelque chose, c'est social, ça aussi, de... Ouais.
Même d'attendre le bonheur.
Gens, ouais. C'est quand on est dans des conversations, j'ose pas dire aux gens que je fais bien, parce que j'ai peur qu'on me dise « Ah oui, c'est bon, elle va toujours bien, de toute façon, elle est tout le temps heureuse. Mmh. » Et du coup, limite, des fois, je culpabilise d'être heureuse, mais pas vraiment culpabilisée, parce que bon, j'y pense sur le moment et je me dis « Bon, tant pis, voilà. Mmh. » Mais évidemment, je suis très heureuse.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Pas tout le temps, mais même quand je suis au plus bas, c'est-à-dire quand je n'ai pas de master et que logiquement je devrais être au plus bas, et ben j'arrive à me dire en fait on s'en fout. C'est un petit coup dur et ça arrive, mais d'avoir ce sentiment de pas être heureux souvent, c'est quelque chose qui devrait pas être normal. Et on peut être heureux, et pour ça c'est beaucoup de déconstruction, je pense.
Oui.
De tout. On peut déconstruire tout, et c'est très long.
Et puis pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent? Je sais que c'est une question très compliquée parce qu'on ne sait jamais à qui on s'adresse, mais si tu en as un, ce serait lequel?
Alors je vais réfléchir.
Vas-y.
Mon meilleur conseil, ça serait que l'émotionnel, c'est quelque chose de très important. Pour tout, et qu'il faut comprendre nos émotions et les vivre plutôt qu'essayer de les balayer. Néanmoins, il faut essayer, quand on débat ou qu'on parle avec des gens, de ne pas faire rentrer cet émotionnel en jeu. Dans le sens où, si tu as une partie émotionnelle qui est très importante, mais des fois, il y a des sujets qu'on n'écoute pas parce qu'on a de l'ego ou qui nous piquent et qui pourraient énormément nous aider. Donc, je pense que l'émotionnel, c'est quelque chose à cultiver et très, très important à garder, que ce soit le bon ou les pleurs, comprendre pourquoi on se sent comme ça, etc. Mais il faut aussi, des fois, se dire pourquoi ça me pique, pourquoi ça touche mon... En fait, il faut comprendre pourquoi... Des fois, on va regarder une vidéo, notamment celle sur le cannabis. Il y a des gens qui fumaient, qui l'ont pris très personnellement, alors qu'ils sont venus eux-mêmes cliquer sur la vidéo et ils m'ont mis des pavés où j'étais le pire des démons, alors que parce que j'expliquais que j'expliquais que c'était pas viable sur le lendemain, sur le long terme, mais qu'en soi, c'était pas eux que je critiquais, mais c'était plus un phénomène entier.
Bien sûr.
Et du coup, c'était une vidéo où, sans pique et sans ce truc, mais si t'arrives un petit peu avec de l'ego parce que toi, t'es pas à l'aise avec le fait que tu fumes, parce que tu sais que c'est pas bien et que tu te mets la pression tous les jours, mais tu vas tomber sur une vidéo et ça va être encore plus... voilà. Donc, on est qui on est, il faut être soi-même, en accord avec soi-même, et... Oh, j'ai trop de conseils à donner.
vas-y.
Mais par exemple, je sais que souvent j'ai joué un rôle parce que, par exemple, moi j'étais passionnée des fourmis et je disais pas salut, je suis passionnée des fourmis. Alors que je pense que si j'avais dit ça directement, j'aurais perdu moins de temps.
Oui, avec t'aurais des gens, été plus honnête.
Voilà. Et des fois, vaut mieux être entre guillemets qui en est et avec peu de gens que qui en est pas et avec beaucoup. Et je pense que c'est important d'être en accord avec soi-même et de ne pas jouer un rôle et de réussir à vivre pour soi et non pas pour faire plaisir à l'autre. Voilà, tout en prenant en compte que toutes les émotions qui nous parcourent ont une raison, ont une cause, et quand on comprend la cause de façon simple, sans juger, c'est très important. Et je pense que le jugement, c'est... En soi, le jugement, c'est la chose qu'on porte sur quelque chose, et il faut faire en sorte que même les choses qui sont socialement pas cool, essayer de leur porter un jugement positif, parce qu'il y a rien qui est... Il y a tout qui peut se juger de la bonne façon. C'est juste une façon de voir les choses. Voilà, gros.
Merci beaucoup, Léa.
Mais merci à toi de m'avoir invitée. J'avais beaucoup de choses à dire.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je t'invite dès aujourd'hui à soutenir Bouteille à la mer en mettant 5 jolies étoiles sur Apple Podcasts avec un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Tu peux aussi venir t'abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram de Bouteille à la mer que tu retrouveras en description. Pour me donner des idées de sujets à aborder, témoigner toi-même sur une thématique en particulier ou me contacter pour partager ton témoignage dans une interview sur ton parcours, sur tes combats, sur ton vécu, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteillealamer-podcast@outlook.fr. Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.